Nouakchott, 21h à Bamako et à Gao. Bienvenue dans Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. En Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz a été réélu avec plus de 80% des voix. L'opposition dénonce certaines irrégularités. Une élection qui a toutefois permis au candidat anti-esclavagiste, Biramda Abed, de se faire entendre.
C'est la gouvernance esclavagiste, la gouvernance du racisme, la corruption, le bradage des richesses du sous-sol mauritanien, des richesses halieutiques.
Nous serons ensuite à Gao, au Mali. Alors que l'on célèbre dans le monde les services publics, le nord du Mali, lui, souffre toujours d'une pénurie de fonctionnaires. Reportage de Boubacar Touré sur les déficits de la protection civile. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver pour ce dernier flash de la soirée du lundi 23 juin 2014. D'abord en Coupe du Monde au Brésil. Deux matchs se jouent ce soir. Le Cameroun contre le Brésil qui menait par 2-1 à la mi-temps. Ensuite, la Croatie aux prises avec le Mexique. 0-0 de rencontres qui vont reprendre dans quelques petites minutes. L'actualité africaine, au Nigeria, au moins 8 personnes ont été tuées et 12 blessées dans l'explosion d'une bombe lundi dans l'enceinte de l'école de santé publique de Kano. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon l'AFP, l'explosion a eu lieu vers 12h, temps universel, et semblait provenir du parking situé à côté du bureau du directeur de l'école supérieure de santé publique de Kano, la plus grande ville du nord Nigeria. Adeleye Shinaba, le chef de la police locale, a fait état d'au moins 20 victimes qui ont été transportées à l'hôpital, et parmi elles, 8 morts. Il a ajouté que la bombe a été déposée par un suspect qui a pu être appréhendé et se trouve actuellement en garde à vue. Il n'y avait pas de cours au moment de la déflagration, l'école étant fermée pour les vacances, mais de nombreux étudiants étaient venus s'inscrire pour la rentrée prochaine. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais Boko Haram, qui signifie que l'éducation occidentale est un péché, a souvent mené des enquêtes contre des établissements scolaires. Des centaines de lycéennes enlevées depuis la mi-avril par les islamistes n'ont toujours pas été retrouvées.
Dans l'actualité encore, un tribunal égyptien a condamné 3 journalistes d'Al Jazeera à 7 ans de prison pour avoir soutenu les frères musulmans et pour avoir diffusé de fausses nouvelles. Une condamnation qui a créé un tollé mondial. Claire Morin-Gibourg.
Le verdict est tombé ce lundi pour les 3 journalistes de la chaîne Al Jazeera. Mohamed Fadel Fahmy, chef du bureau, son confrère australien Peter Grest, ont été condamnés à 7 ans de prison et leur collègue égyptien Baher Mohamed, lui, a écopé 10 ans de prison. Al Jazeera a toujours nié les accusations contre ses employés. Elle a qualifié le verdict de choquant et promet de continuer sa campagne intitulée « Le journalisme n'est pas un crime ». Cette condamnation est effrayante, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry depuis Bagdad. Navi Pillay, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, se dit choqué et très alarmé. Pour Amnesty International, c'est un jour noir pour la liberté de la presse en Égypte.
Fin en Afrique du Sud de la grève qui paralysait les principales mines de platine depuis 5 mois. Les compagnies minières et les syndicats de mineurs sont parvenus aujourd'hui à un accord qui sera signé demain. Les mineurs retourneront au travail mercredi. Les compagnies Lonmin, Impala Platinum et Anglo American Platinum chiffrent à plusieurs milliards de dollars leur manque à gagner découlant de la longue grève. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont menacé la Russie de nouvelles sanctions en cas de non-respect du plan proposé par le président ukrainien pour mettre fin aux violences dans l'est de son pays. Moscou et Kiev ont entamé des pourparlers à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Dans une déclaration conjointe, les ministres de l'UE demandent au président Vladimir Poutine de retirer ses troupes de la frontière ukrainienne. 10 membres de l'armée syrienne ont trouvé la mort cette nuit après des frappes israéliennes sur les hauteurs du Golan. C'est ce qu'annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. L'ONG précise également que l'attaque a détruit 2 chars et 2 pièces d'artillerie. D'après des responsables israéliens, les frappes visaient des positions de tir et un quartier général de l'armée syrienne dans la région. Visite impromptue ce lundi du secrétaire d'État américain à Bagdad. John Kerry y a rencontré de hauts dirigeants chiites du pays, dont le premier ministre Nouri al-Maliki, de même que des députés sunnites. Le chef de la diplomatie américaine les a exhortés à former un gouvernement élargi face à l'offensive des djihadistes sunnites qui ont pris de vastes territoires dans le nord et l'ouest d'Irak. Le chef du gouvernement irakien lui a fait part de ses craintes concernant l'avancée fulgurante des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant. Pour Nouri al-Maliki, elle représente une menace non seulement pour l'Irak, mais pour la paix régionale et internationale. Il a appelé à des frappes aériennes américaines contre les insurgés. Washington s'était dit prêt à une action militaire ciblée et précise en Irak, mais aucune décision n'a encore été prise. Et je vous rappelle qu'en Coupe du Monde, c'est la reprise maintenant même de deux rencontres qui ont lieu en ce moment même. Le Cameroun contre le Brésil et la Croatie aux prises avec le Mexique.
Retour à Sahel Plus et nous ouvrons avec le résultat des élections en Mauritanie. Le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, a obtenu 81,89% des voix à l'élection présidentielle de samedi, s'assurant d'une large victoire devant ses quatre adversaires. Bala Touré, le porte-parole du candidat Biram Da Abed, a quelques griefs sur la tenue du scrutin.
Ce que nous avons contre le scrutin, c'est d'abord les préparations en amont. Nous avons vu les biens de l'État, les moyens de l'État et les symboles de l'État être utilisés à outrance en faveur du candidat Mohamed Ould Abdelaziz. Nous avons vu des ministres en fonction être dans les équipes de campagne. Nous avons vu des officiers supérieurs à l'œuvre sur le terrain. Nous avons vu des diplomates qui sont encore en service à l'œuvre pour le candidat Mohamed Ould Abdelaziz. Ça, c'est au vu aussi de tout le monde. Et ceci est contraire aux règles en matière d'élection en Mauritanie. Donc ça, c'est ce qui est de l'amont. Et puis, en aval, et même pendant le processus des votes, nous avons remarqué des cas où plusieurs dizaines de personnes se soient présentées devant le bureau de vote et qu'elles ne puissent pas voter puisque leur numéro, tout simplement, ou leur nom ne se trouvait pas dans la liste électorale. Bien que ces personnes se soient inscrites, leurs noms ont été tout simplement raillés de la liste électorale parce que ce sont des gens qui sont étiquetés comme étant des électeurs potentiels contre Mohamed Ould Abdelaziz. Bon, nous avons aussi des griefs au niveau du vote des militaires. Ceux-là, des militaires et des différentes forces de l'ordre, des éléments de forces de l'ordre, qui ont voté la veille des élections, c'est-à-dire le vendredi. Et à l'issue du vote, normalement, les urnes devraient être restées scellées et confiées à la bonne garde de la CENI. Ce que nous avons remarqué, c'est que les urnes ont été ouvertes, et ce, en l'absence des représentants des différents candidats. Donc, seuls les membres de la CENI ont ouvert ces urnes, donc ce qui est sorti des urnes ne représente certainement pas la réalité du vote. Donc, la plupart de ces irrégularités, il y en a d'autres encore, on peut les impliquer d'ailleurs au manque de neutralité de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Sans elle, beaucoup de ces anomalies n'auraient pas pu être opérées.
Bala Touré, le porte-parole du candidat Biram Da Abed. Si une grande partie de l'opposition avait appelé au boycott de ce scrutin, n'hésitant pas à le qualifier de mascarade, cette élection a permis l'émergence d'un nouveau candidat. Biram Ould Ould Abed, candidat anti-esclavagiste, historien et juriste de formation, est un Naratine, un descendant d'esclaves. Il est aussi le président de l'IRA, l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Il revient sur ce qui l'a motivé à se présenter à cette élection.
On a axé notre campagne sur la rupture avec la mauvaise gouvernance en Mauritanie depuis l'indépendance, la gouvernance esclavagiste, la gouvernance du racisme, la corruption, le bradage des richesses du sous-sol mauritanien, des richesses halieutiques mauritaniennes. Nous avons axé notre campagne sur la restauration des droits des factions défavorisées opprimées en Mauritanie, majoritaires en Mauritanie, comme les différentes ethnies noires, les Haratines, les Soninké, les Wolofs, les Bambara, qui ont été victimes de tentatives de génocide d'exclusion ethnique, mais aussi d'un esclavage structurel qui perdure depuis 700 ans.
Mais vos adversaires vous accusent d'un message plutôt raciste ou ethniciste.
Bon, c'est le voleur qui crie au voleur. Ça, c'est les racistes. Ce sont les esclavagistes qui ont fondé leur mode de vie sur l'esclavage, sur la traite des Noirs, sur les travaux forcés et les viols sexuels contre les femmes noires. Ce sont les groupes, les segments arabo-berbères minoritaires qui dominent la Mauritanie et qui ont pendu 28 Noirs à Inal le 28 novembre 1990. Pour fêter l'indépendance en sacrifiant des Noirs, c'est des gens qui ont tué 719 soldats, officiers, sous-officiers et cadres civils noirs parce qu'ils sont pelles. C'est ce genre de personnes qui me traitent moi de raciste, qui traitent mon discours de raciste. Moi qui est lauréat du prix des Nations Unies pour les droits de l'homme, primé par plusieurs prix d'ONG internationales crédibles, quelle crédibilité vous donneriez-vous à ces accusations, à ces taxations? Non, ils me taxent de raciste parce qu'ils n'ont pas trouvé un autre alibi, un autre argument vrai qu'ils peuvent développer contre moi pour pouvoir stopper notre ascension qui va finir par les emporter, mais elle va les emporter par la paix, par la lutte pacifique, par les discours pacifiques, par les discours démocratiques, les discours dont a témoigné la communauté internationale.
Le candidat anti-esclavagiste Biram Oulda Oulda Beyd au micro d'Idriss Fall. C'est la journée internationale de célébration du service public, l'occasion pour celles plus de revenir une fois de plus dans le nord du Mali pour faire un point sur le fonctionnement des services administratifs. La protection civile qui a la gestion des urgences dans la région travaille aujourd'hui dans des conditions très pénibles, sans matériel ou véhicule et dans des locaux très délabrés. Reportage à Gao de notre correspondant Boubacar Touré.
La protection civile qui a la gestion des urgences, c'est-à-dire les accidents de la route, les noyades, les incendies et les catastrophes naturelles, a signé son retour depuis le mois d'avril dernier après la libération des régions du Nord. Le directeur régional de la protection civile, le commandant Samake Cham, nous explique les missions fondamentales de son service.
Ce que nous faisons aujourd'hui à Gao, c'est naturel. Nous faisons les secours à victimes. Nous donnons nos conseils d'experts en matière de sécurité. Nous procédons aux sensibilisations. Nous avons également participé à des actions humanitaires, notamment la distribution des vivres aux couches vulnérables et puis le recensement des déplacés avec l'appui bien sûr de certaines ONG de la place, notamment le IEM à travers une ONG locale à Casse. Chaque jour que Dieu fasse, mes hommes sont dans les gardes d'escale pour enregistrer les déplacés qui viennent d'ailleurs et puis le résultat est communiqué à qui des droits.
À la demande du commandant de la zone de défense numéro 1 de Gao, invitant tous les corps des armées à regagner leurs casernes pour mieux sécuriser la ville, le directeur régional de la protection civile et son personnel ont rejoint leurs anciens locaux au sortir de la ville. Constat, les conditions d'hébergement laissent encore à désirer.
Quand on est venu par avion parce que c'était vraiment la volonté des hautes autorités en son temps. Au fur et à mesure, les moyens roulants nous ont trouvés sur place. Comme vous le saviez, et suite à l'occupation, toutes les structures de l'État ont été dégradées. C'est pratiquement les premières difficultés auxquelles on a été confrontés. Mes hommes se couchaient dans des locaux sans porte, sans fenêtre. Mais en la matière, vous le saviez autant que moi, il y a des démarches en cours au niveau de l'État pour en tout cas prendre en charge le rétablissement de tous ces locaux. Mais si vraiment ça pouvait se faire le plus vite, ça allait beaucoup nous soulager, compte tenu du grand froid qui frappe les régions du Nord actuellement. Vous voyez là où je suis assis, c'est là où je dois loger. Mais malheureusement, puisque les travaux n'ont pas encore commencé, parce qu'en notre qualité de gérant des urgences, c'est important que nous soyons en grand nombre dans la caserne ici. Est-ce que vous voyez? Auquel cas où il y a un sinistre qui dépasse l'effectif des hommes de garde, tout de suite la réserve qui est là, sur place, serait mise en fonction pour en tout cas aller appuyer ceux qui sont déjà sur le terrain. C'est ça même l'objectif recherché de la construction de ces locaux contenant vraiment des abris pour les éléments.
Ces hommes qui gèrent au quotidien les urgences apportent assistance à tous ceux qui sont dans le besoin malgré les moyens de travail très insuffisants. Le commandant Samake Cham.
aujourd'hui à Gao, les gens se déplacent spécialement à moto ou à pied pour venir faire la lettre au niveau de la protection civile. Parce que vous voyez, non ? En attendant que les choses soient normalisées, c'est le seul moyen pour nous alerter. Parfois, puisque certains cadres ont le numéro de téléphone de certains de mes agents et de moi-même, on est alerté en fonction de ces numéros-là. Et puis aussitôt alerté, nous nous présentons sur les lieux et puis faire ce qu'on peut faire. Les moyens de communication qui vont tout juste venir peut-être au moment où les locaux seront rétablis. Vous savez, en matière de sécurité, les moyens sont toujours insuffisants. Est-ce que vous comprenez ? Même dans les grandes nations les plus nanties, vous voyez, non ? On ne peut pas donner tout ce qu'il faut pour bien sécuriser la population. Mais les moyens que l'État nous a quand même envoyés, on se sert de ça pour arriver à bout de notre mission. Jusqu'à présent, tous les sinistres auxquels nous avions été sollicités, à ma connaissance, je pense bien que nous sommes arrivés à soulager en tout cas ceux qui ont été victimes.
Les populations qui bénéficient des services de la protection civile apprécient la qualité du service et invitent le gouvernement du Mali à mieux outiller le service qui a pour mission de secourir les victimes afin qu'ils puissent jouer pleinement sa partition. Omar Khalidou Maïga, enseignant à l'école fondamentale de Sani.
Actuellement, moi je le vois seulement avec trois véhicules. Le véhicule du directeur, un véhicule d'intervention et une ambulance. Et ça ne peut pas suffire pour toute la population de Gao. Donc j'exhorte vraiment l'administration à tout mettre en œuvre pour leur donner leur matériel pour que la protection civile puisse faire son travail comme ça se doit. Sinon, je les vois, ils ont la volonté, ils ont l'ambition de servir leur pays, de servir la région, mais les moyens manquent. Les populations sentent leur existence, parce que quand il y a des accidents, en tout cas on leur fait appel. Quand il y a un incendie, on leur fait appel. Maintenant, eux aussi, ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent, quoi. Ils peuvent travailler qu'à la limite de leurs moyens. Sinon, les gens savent qu'ils sont là, les gens les appellent et ils viennent. Mais il faut qu'on leur mette vraiment les moyens à leur disposition pour qu'ils puissent faire convenablement leur travail.
À l'image du service de la protection civile, plusieurs autres services administratifs attendent d'être rénovés et équipés pour une meilleure prestation. En tout cas, les populations de la région constatent avec regret l'absence de l'État, tout simplement parce que ces services fonctionnent très timidement, sinon ne fonctionnent pas du tout. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour le redémarrage effectif des services administratifs dans le nord du pays? C'est la question que tout le monde se pose. Gao Boubacar Touré pour Sahel Plus sur la voie de l'Amérique.
Gao, vous nous écoutez sur le 101.7 FM sur la radio Ahadar Koïma. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Joe Gill. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec la Camerounaise Saline Niolo qui interprète Bikutsi. Saline Niolo sera en concert le 27 juin à Niort en France dans le cadre du festival Tessie Verdi. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter. VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Panga yeni tungolo son, ni nangani mbokani savalanam, ni nangani mbokani viribitul, ni nangani mbokani tongo jumo vibwan. Bapam gitele benete chamanda, ni nba pam gitele benete sap, ni nba pam gitele benete chamanda, ni nba pam gitele benete sap.
Gay,